jusque. Hey, merci du compte-rendu, mademoiselle. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. La merveille de la lutte, Marceau, s'en vient prendre soin de vous autres avec Maître Bellemare. Bonne soirée, à demain.
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ben oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit...
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit...
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard!
102.1. Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée en ce lundi. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque c'est le grand retour de Maître Marc Bellemare, qui nous a délaissé la semaine dernière. Il m'a manqué, je pense que je vais lui dire. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, comment ça va?
Ça va bien, je suis content de vous retrouver. Là, vous m'avez abandonné la semaine dernière. Les auditeurs ont dit « Il est où, Maître Bellemare? Il est où? » Je dis « Je sais pas, il m'a pas donné de nouvelles. » Là, il va revenir la semaine prochaine.
Hey, Seigneur. Hey, je pense que c'est la première fois que je sautais une semaine depuis qu'on travaille ensemble, Monsieur Marceau, et depuis qu'on travaille ensemble, c'est ça fait des années, 8 ans peut-être,
sur
une radio concurrente jusqu'à il y a 4 ans, puis au 102.1 depuis 4 ans. Est-ce que mes chiffres sont exacts?
Au 102.1 depuis 2 ans maintenant.
Puis, OK.
Puis je pense qu'on était ensemble 6 ans à l'ancienne station.
Ah, Lynn Devine, j'ai plus rien à dire, là.
Non, ben c'est ça, il reste plus rien.
Tu es rendu à sec.
Exact. Ben moi, j'ai des choses à vous dire, Maître Bellemare. La Red Jordan, là, est quelque chose qu'on a mis en place pour être sûr et certain que les droits de tout le monde puissent être respectés. Si vous voulez bien nous rappeler c'est quoi exactement la Red Jordan, ça va me faire plaisir que vous puissiez le dire aux auditeurs. Mais en résumé, parfois, ça peut être cruel pour des gens qui ont été agressés sexuellement, qui ont fait l'effort d'aller au poste de police pour parler de leur agresseur, parler de leur agression, qui ont fait tout le processus judiciaire et qui finalement, à un moment donné, se ramassent en cour, doivent témoigner. Et là, c'est ce procès-là dure quelques années, puis après un certain temps, pouf, pendant 6 mois, il se passe rien, et tout d'un coup, ben on déclare que c'est la Red Jordan, puis que l'individu qui était accusé, ben, est maintenant libre parce que ça fait trop longtemps qu'on le poursuivait, là.
Ouais, l'arrêt Jordan, quand on dit un arrêt, là, c'est un jugement d'une cour très élevée, supérieure. D'habitude, c'est la Cour suprême ou la Cour d'appel quand il n'y a pas d'appel à la Cour suprême. Donc, un arrêt, là, le mot le dit, c'est un jugement définitif auquel on doit se soumettre. Alors, la Cour suprême du Canada, composée de 9 juges, dont 3 sont issus du Québec, selon la Constitution, et qui rend des jugements qui sont définitifs. En 1982, Trudeau père, Pierre Elliott de son prénom, a fait adopter une nouvelle constitution pour le Canada en intégrant dans la Constitution une charte des droits et libertés. Et cette loi-là, qui est une loi constitutionnelle, prévoit à l'article 11B que toute personne accusée doit être jugée dans un délai raisonnable. Ça s'applique à toutes les instances, c'est-à-dire cour municipale pour un simple ticket, agression sexuelle en Cour du Québec, tentative de meurtre ou meurtre à Cour supérieure, jury, pas jury, c'est un délai raisonnable. Bien, la charte ne dit pas c'est quoi un délai raisonnable. Alors, la Cour suprême a eu plusieurs cas depuis 82, puis en 2016, Il y a un dénommé Jordan qui s'est présenté à la Cour suprême et qui plaidait qu'il y avait un trafiquant de l'Ouest canadien, je pense qu'il vient de Colombie-Britannique. Et ce trafiquant-là disait, oui, peut-être que c'est vrai que j'ai commis un crime grave, mais trop tard, ils ont pris du temps, puis la couronne s'est traînée les pieds un peu, puis ça a pris quelques mois, quelques années de trop. Alors, la Cour suprême a profité de cette situation-là pour rendre un jugement historique en disant, dorénavant, si vous êtes accusé devant une cour provinciale, comme la Cour du Québec, il faut que vous soyez jugé à l'intérieur d'un délai de 18 mois. Si c'est en cour supérieure, par exemple, pour un meurtre, vous devez être jugé dans un délai de 30 mois. Alors, c'est devenu une réalité devant toutes les cours, et compte tenu que la plupart des tribunaux n'étaient pas capables de juger dans ces délais-là, parce que le DPCP est débordé, ils n'ont pas le temps, souvent ça prenait 34 mois, 40 mois, 50 mois, la Cour suprême disait que dans ces cas-là, il faut libérer l'accusé. Ce qui fait qu'il y a eu une véritable hémorragie de libération partout au Canada, des accusés de toutes sortes de crimes, possession, trafic, agression sexuelle, voie de fait, tentative de meurtre et même meurtre. Il y a des gens accusés de meurtre qui ont été libérés, non pas parce qu'ils étaient innocents, parce qu'on ne parle pas d'un acquittement, mais ils ont été libérés parce que le délai de la Cour suprême n'a pas été respecté. Alors moi, j'ai toujours été très critique face à ce jugement-là. Je dois m'y soumettre comme tous les avocats et tous les juges au Canada, mais effectivement, c'est une calamité. Ça a apporté un véritable désastre au niveau des systèmes juridiques. Puis, c'est bien évidemment pas les victimes qui en profitent, ni vous et moi, là. Les citoyens honnêtes là, qui s'attendent à ce que la justice fasse sa job et à ce que les bandits soient en prison, là, eux autres, ils n'ont rien gagné là-dedans. Ceux qui ont gagné quelque chose, mais c'est les bandits, les criminels de tout acabit, qui se sont retrouvés libérés. Puis encore, il y a quelques semaines, il y a deux personnes qui étaient accusées de crimes sexuels graves sur des enfants qui ont été libérées en vertu de l'arrêt Jordan. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus dans les années 2008, 2009, 2018, 2019, quand ce jugement-là était tout frais. Aujourd'hui, il y en a un peu moins parce que le gouvernement a investi, a mis de l'argent dans le système de justice pour éviter que cette libération-là survienne et pour s'assurer que les gens étaient jugés dans les délais que la Cour suprême avait imposés. Mais il reste qu'il y a encore aujourd'hui des libérations en vertu de l'arrêt Jordan. Fait que moi, ça me fait dire que la charte de Trudeau père, là, c'est bien bon pour les criminels. Ça a beaucoup servi pour les criminels depuis 82, mais les gens honnêtes, là, ordinaires, là, qui ne sont pas accusés de rien, là, ils n'en ont pas profité. On ne peut pas dire que c'est une charte qui a aidé Yann Marceau puis Marc Bellemare. C'est une charte qui aide les bissonnettes de ce monde puis les gens qui sont accusés de crimes ou d'infractions pénales.
C'est que, Maître Bellemare, j'ai l'impression qu'il y a des crimes qui sont plus difficiles à accepter que d'autres, là, si « accepter » était le bon mot, là, mais je veux dire, un crime économique, quelqu'un qui a commis un vol, quelqu'un qui pète une balloune, tu sais, de simples vols à l'étalage. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il faut que les droits de l'individu soient respectés pour qu'il puisse passer à d'autres choses, mais là, 5 ans, c'est peut-être un peu trop long. Fait que, OK, bon, il a fait un vol à l'étage. Mais une agression sexuelle, ça doit aller jusqu'au bout du processus, là. Parce que sinon, ça envoie un mauvais message. T'sais, les agressions sexuelles ou les agressions sur la personne, on devrait exclure l'arrêt Jordan de ça. Est-ce que ce serait possible de le faire, ça? De dire, oui, l'arrêt Jordan, c'est intéressant, on va se fier là-dessus, mais pour certains crimes, comme les crimes sur la personne, que le procès dure 10 ans ou que le procès dure 15 ans, ça t'offrera 15 ans, c'est tout.
Oui, on s'entend que c'est à cause de la charte que je viens de mentionner, parce que la charte ayant une valeur constitutionnelle, quasiment maître après Dieu, là, c'est devenu comme la loi des lois à laquelle toutes les autres lois doivent se conformer et toutes les situations. Pour pouvoir écarter la charte et écarter par conséquent l'affaire Jordan et écarter les délais de 18 ou 30 mois qui sont en tout et moi, relativement court quand on a une grosse preuve à administrer puis qu'on n'est pas toujours capable de rentrer dans ces délais-là. Puis des fois, à la couronne, il y a des avocats qui sont malades, il y a des grèves, il y a des situations où, effectivement, il y a eu un certain délai, mais il n'y a pas d'excuse, c'est 18 ou 30 mois selon le tribunal.
Ouais.
pour écarter ces délais-là, il faut que le gouvernement du Canada invoque la clause dérogatoire pour écarter la charte. La clause dérogatoire, c'est quoi? C'est une clause dans la Constitution qui permet à un gouvernement de mettre de côté un droit prévu dans la charte. Les gouvernements du Québec et des autres provinces ont eu recours à la clause dérogatoire à plusieurs reprises. Je vous donne l'exemple, la loi 96 sur la langue française. Bien, le gouvernement du Québec a invoqué la clause dérogatoire pour écarter les chartes, pour éviter que la Cour suprême ou que la Cour d'appel viennent casser des pans complets de la loi linguistique qui fait du français la langue officielle. La loi sur la laïcité, l'Assemblée nationale a eu recours aussi à la clause dérogatoire pour écarter la charte, pour pas qu'on puisse invoquer des arguments pour pouvoir porter des burqas puis des kirpans puis toutes sortes de patentes religieuses dans le cadre d'un emploi qu'on occupe pour l'État québécois. Alors, le fédéral, lui, qui s'occupe du code criminel, pourrait invoquer la clause dérogatoire pour faire en sorte que l'arrêt Jordan soit écarté dorénavant, parce que ça ne pourrait pas avoir un effet rétroactif. Tu sais, le gouvernement qui invoquerait la clause dérogatoire aujourd'hui ne pourrait pas dire, ben le gars qui a été libéré à cause du délai qui n'a pas été respecté de Jordan il y a 2 ans, on va le réaccuser, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas revenir en arrière, mais pour garder en avant, la Chambre des communes pourrait dire, on invoque la clause dérogatoire, on écarte la charte avec ses délais, puis on dit qu'il n'y en a plus de délais, ou bien non, on va doubler les délais que la Cour suprême avait donnés, ou on va les tripler, mais on va donner plus de temps aux différentes provinces qui portent les accusations criminelles pour pouvoir mener à bien des procès. Ça pourrait se faire, c'est sûr que ce n'est pas Trudeau qui va faire ça, puis ce n'est pas le NPD, puis ce n'est pas le Bloc, qui ont toujours été beaucoup plus à gauche sur l'échiquier, puis qui sont en gros assez favorables à l'arrêt Jordan, même si le Bloc a soumis il y a quelque temps une proposition peut-être pour faire en sorte que les délais de Jordan ne s'appliquent pas. Il faut être juste avec eux autres, mais c'est le parti politique qui pourrait peut-être agir de ce côté-là, c'est le Parti conservateur, qui est beaucoup plus dur sur la loi et qui a toujours eu la loi et l'ordre dans ses cartons. Alors, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais le fédéral n'a jamais eu recours à la clause dérogatoire, de sorte que la charte s'applique dans tous les cas. Puis c'est ce qui nous mène à des affaires comme des libérations à cause des délais qui ne sont pas respectés, parce que tant qu'on n'invoquera pas la clause dérogatoire, qu'on n'écartera pas la charte, le jugement de la Cour suprême avec ses délais de rigueur va continuer de s'appliquer, puis les bandits et les accusés vont continuer d'être libérés si les délais ne sont pas respectés.
Puis est-ce qu'il faut que ça vienne du Parti conservateur à l'interne ou un homme comme vous, qui était un ex-ministre de la Justice au Québec, pourrait soumettre ça à un gars comme Pierre Poilievre, puis Pierre Poilievre pourrait en parler à son équipe, puis... Est-ce que ça doit absolument venir du Parti conservateur, qu'à un moment donné, quelqu'un tombe là-dessus, ou bien vous pourriez soumettre ça aux conservateurs pour qu'eux puissent regarder ça de leur côté?
Bien, la Chambre des communes. La Constitution du Canada prévoit un partage des pouvoirs, comme on le sait, comme l'éducation, ça relève des provinces, donc du gouvernement du Québec. La faillite, ça relève du gouvernement du Canada. La poste, l'armée, ça relève du gouvernement du Canada. Et le code criminel relève du gouvernement du Canada. Fait que le code criminel, toutes les infractions qui amènent des possibles peines d'emprisonnement, meurtre, alcool au volant, agression sexuelle, voies de fait, menace de mort, tout ça, c'est dans le code criminel. Donc, ce sont des gestes qui sont réprimés, réprouvés par le code criminel et qui font que tu as un dossier criminel si tu as commis cette infraction-là pour laquelle tu as été condamné ou que tu as plaidé coupable. Alors, il faut que ça vienne de la Chambre des communes. Le Parti conservateur, actuellement, n'est pas majoritaire. Au fond, il n'y a aucun parti politique à la Chambre des communes qui est majoritaire. Ça prend un gouvernement qui va soumettre un projet de loi et qui va prolonger les délais et les inscrire dans le code criminel avec la clause dérogatoire qui va faire que la charte ne viendra pas imposer des délais autres que ceux qui ont été votés par le Parlement canadien à la Chambre des communes majoritairement.
Okay. Puis de l'autre côté, bon, on comprend, là, on vient de parler de l'arrêt Jordan, 5 ans, blablabla, c'est trop long, on comprend tout ça. Pour ce qui est des agressions, c'est un petit peu plus difficile à comprendre en disant, bien là, une agression, ça touche les victimes sont traumatisées de ça, ils embarquent dans un processus, puis on se dit, on pourrait peut-être faire quelque chose pour ce type de crime-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, Maître Bellemare, qu'au palais de justice de Québec, palais de justice de Montréal, palais de justice de Trois-Rivières, puis les autres palais de justice à la grandeur du Québec, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si long que ça? Y a-tu trop de paperasse? Y a-tu trop de fonctionnaires qui travaillent là-dedans? Qu'est-ce qui bloque constamment pour qu'un procès puisse durer 5 ans?
Ben, écoutez, il y a toutes sortes de raisons. D'abord, il y a des individus qui sont impliqués là-dedans. C'est pas des machines, c'est des personnes. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, des avocats de la couronne, des greffiers, des secrétaires. Il y a toujours des processus qui peuvent être plus longs que prévu. Mais, tu sais, mener à bien un procès dans la Cour du Québec dans un délai de 18 mois, c'est quand même pas très long, pour comprendre, parce que il y a toutes sortes de choses à regarder, il y a des enquêteurs à rencontrer, il faut trouver un juge, il faut trouver une salle, il faut que ça corresponde aux effectifs que le système judiciaire a. Des juges, il n'y en a pas des tonnes, des procureurs de la couronne, il n'y en a pas des tonnes non plus, le DPCP. Puis à un moment donné, il y a des dossiers où il peut y avoir des délais un peu plus longs. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de moins de cas d'arrêt Jordan qu'il y en a déjà eu, parce que quand le jugement de la Cour suprême est tombé, en juillet 2016, ça a eu l'effet d'une bombe. Parce que là, les systèmes judiciaires et les ministères de la justice partout au Canada s'y attendaient pas. Ça a tombé, bang, puis là, il y a eu une libération massive de plusieurs accusés parce que les délais étaient déjà expirés pour ceux qui avaient été accusés en 2014-2015, qui n'étaient pas jugés encore. Bien, la couronne a dû se rendre compte que dans des centaines de cas, ils n'étaient pas capables de livrer un procès dans un délai de 18 mois à Cour du Québec ou de 30 mois à Cour supérieure, ce qui a fait qu'il y a eu une hémorragie de libération dans ces premières années-là. Là, la ministre Stéphanie Vallée, qui était ministre libérale de l'époque, c'était Philippe Couillard qui était premier ministre, a dit « on va faire de quoi, puis on va faire un comité, puis on va mettre de l'argent, puis on va engager plus de monde ». Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, je peux dire là, qu'en 2016 et 2019, là, il y a eu, ça a gaulé, là, et dans les cours criminelles un peu partout, mais ça n'a pas empêché plusieurs centaines, voire quelques milliers, je pense, dans l'ensemble du Canada, parce que le code criminel, c'est canadien. L'Ontario puis le Manitoba sont tous, ils ont pris avec le même code et la même Cour suprême qui s'applique from coast to coast, là, de Halifax à Vancouver. Fait que ça a provoqué beaucoup de libérations. Alors, le mal est déjà fait, c'est sûr. Et ce qui est encore pire, c'est que, tu sais, quand tu es victime, toi, puis que tu vois ton agresseur libéré parce qu'on ne l'a pas jugé dans le délai, est où la justice, là?
Il n'y en a pas.
Alors, les victimes d'actes criminels, qui sont beaucoup des femmes victimes d'agressions sexuelles, des femmes victimes de violences conjugales, des femmes victimes de toutes sortes de d'actes répréhensibles, les enfants qui sont agressés, les petites filles notamment, et voir son accusé libéré, ben c'est un deuxième traumatisme, on s'entend, là, parce que la première étape de réhabilitation puis d'acceptation de ta situation puis de deuil pour passer au deuil de ton acte criminel, c'est qu'il y a une condamnation. Une fois que la condamnation est prononcée, que le criminel s'en va en prison, bien là, la victime respire mieux parce que sa situation a été comprise, reconnue, et il y a une conséquence aux gestes qui ont été posés sur elle. Si la personne est libérée, bien là, c'est un deuil pathologique. Ça devient à peu près impossible de passer au travers parce que toute sa vie, cette personne-là va se dire « il n'y a pas eu de justice, puis mon agresseur se promène livre comme l'air, puis il me fait des grimaces, puis il est bien content ». Le système a failli dans son cas. Alors là, il y a eu des victimes qui ont décidé de s'adresser à la Cour supérieure en disant fort bien, si mon accusé a été libéré faute de temps, parce que la couronne n'a pas fait sa job pour s'assurer qu'il y ait un procès dans les 18 ou dans les 30 mois, bien moi, j'ai un dommage à cause de ça. Et ce dommage-là, psychologique, il s'ajoute à l'agression. Je veux avoir une compensation parce que l'État québécois n'a pas fait sa job qui consistait à mettre ce gars-là en prison. Puis moi, ça me cause un dommage parce que je n'ai pas de réparation psychologique, je n'ai pas de réparation judiciaire à cause du crime qui a été commis. Puis on s'entend que Jordan, les libérations, ça ne veut pas dire que le crime n'a pas été commis. Dans bien des cas, la couronne a une excellente preuve, c'est juste le délai gnagnant qui n'a pas marché. Alors, il y a des victimes qui sont adressées à la Cour supérieure. Puis l'année passée, la juge Claudia Prémont de la Cour supérieure a rejeté une action à dommages-intérêts qu'une victime avait intentée contre le DPCP et le ministère de la Justice qui n'avaient pas fait sa job dans les délais requis par la Cour suprême dans l'affaire Jordan. Et la Cour supérieure a rejeté la demande en disant que le système judiciaire avait une forme d'immunité en ce sens qu'on ne peut pas poursuivre la couronne, le ministère de la Justice parce qu'il y a une libération ou un acquittement. Ils ont fait le possible, puis il y a des clauses d'immunité, puis on ne peut pas poursuivre dans ces cas-là à cause d'un certain nombre de principes de droit public. Et donc, la personne qui était la victime de l'ange Gabriel, là, si on se souvient bien, une petite fille de Drummondville que j'ai représentée pendant un certain temps, n'aura jamais de compensation. Ça veut dire qu'on est dans le no-fault mur à mur dans ce domaine-là. Les criminels sont libérés. La DPCP et le ministère de la Justice n'est pas imputable pour l'erreur qu'il a commise, à savoir que ça a pris trop de temps. Les victimes n'ont rien. Puis on va nous faire croire que ce système-là est un système qui est ouvert, favorable et compréhensif face aux victimes. Je dois te dire que je suis pas d'accord.
Parce que, tu sais, moi, je suis en mode solution, là. Vous me parlez de l'arrêt Jordan, puis vous me parlez des victimes que vous avez rencontrées, que vous avez représentées, puis qui sont un peu insatisfaits. Vous l'êtes, vous aussi, puis ça me touche beaucoup. Mais il faut être en mode solution. Est-ce que les juges sont peut-être un peu trop archaïques dans leur façon de travailler? Je sais qu'avec la pandémie, les juges étaient un peu plus ouverts à faire des procès où les gens étaient soit à leur bureau, si c'était des avocats, ou soit à leur maison. Puis tout ça se faisait à distance, puis ça impliquait pas des déplacements dans Pufenet, puis des remises de cause parce que l'autre peut pas se rendre à Québec, parce que l'avocat, il a déjà d'autres mandats. Va-tu falloir que les juges, on les oblige à accepter les procès avec des individus qui sont à distance? On n'aura pas le choix, à un moment donné, d'en arriver là, Maître Bellemare, si on veut passer au travail.
Il y a eu certains progrès qui ont été faits dans le temps de la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, là, le shutdown, c'était en mars 2020. Moi, je me souviens très bien, à un moment donné, les tribunaux se sont ajustés parce que c'était un shutdown, le mot le dit, c'est arrivé d'un coup sec. On ne s'y attendait pas, tout a été fermé d'un coup. Et les tribunaux aussi, fait que là, ils se sont ajustés puis ont commencé à faire du Teams et du Zoom, c'est-à-dire de l'ordinateur. Donc, on pouvait faire les procès à distance. Le monsieur était sur son téléphone ou sur sa tablette ou sur son ordinateur. Ils pouvaient témoigner, puis les juges, en fait, comme tout le monde était sur des écrans, et on a réussi à en faire pendant un certain temps. Et ça a marché, mais une fois que la pandémie a été écartée, puis qu'on s'est retrouvé, je dirais, grosso modo, début 2023, fin 2022, il y a plusieurs tribunaux qui ont recommencé à faire du présentiel. Et moi, je trouve ça dommage. Très dommage même, parce que le présentiel, ça demande beaucoup de ça, c'est très lourd. Il faut que tout le monde se déplace, trouver un parking, le trafic. Au Québec, mais il y a de la neige, hein, puis de la glace. Fait que l'hiver, décembre, janvier, souvent, il y en a un qui ne peut pas se rendre, il y en a un qui est pris dans la neige, les déplacements. Dans les régions, ça devient difficile. Alors oui, on avait pris des bonnes habitudes, Yannick, pendant quelques années, 2020, 2021, 2022. Mais là, il y en a qui sont revenus au bon vieux processus. Je prends par exemple le tribunal administratif du Québec qui entend des causes de victimes d'actes criminels contre l'IVAC et des causes d'aide sociale contre le ministère Solidarité et des causes d'assurance auto contre la SAC. Moi, ça fait 2 ans que je peux aller en audience au tribunal administratif du Québec. Puis j'ai fait peut-être une centaine, même plus, d'audiences par Teams. Et ça se passe très bien. L'avocat de la SAC est à Montréal. Moi, je suis à Québec. L'accidenté est à Matane. Son médecin est à Sept-Îles. Puis tout ce monde-là est sur écran. Puis on règle tout ça sans avoir à se déplacer. C'est merveilleux. Fait que je peux plaider une cause pour une victime de Gaspé le lundi matin. Puis le lundi après-midi, je peux plaider une cause pour une victime de Rouyn-Noranda, de mon bureau. Alors, ça coupe des frais. Ça coupe des délais. Puis le tribunal administratif du Québec a réussi à faire un travail... à diminuer son caseload, puis à raccourcir les délais, puis c'est très bien. Par opposition à ça, le tribunal administratif du travail, qui, lui, s'occupe des cas de CNSST, est revenu au présentiel il y a à peu près un an et demi. Ils ont recommencé à faire des audiences, puis là, les juges ont dit « on veut vous voir ». Je comprends qu'on veut vous voir, mais moi, je suis à Québec, puis je suis en demande, puis je n'irai pas plaider une cause à Blanc-Sablon ou à Sept-Îles. pour une affaire d'une heure qui va me prendre 8 heures de déplacement, parce qu'en hiver, on sait bien que la 138, c'est un parcours, c'est un sport extrême, avec les bébites, puis la glace, puis les côtes, puis tout ça. Alors, on a reculé. On avait fait un pas vers le virtuel au tribunal administratif du travail, puis c'est regrettable. On est revenu au présentiel, ce qui fait que c'est devenu aussi lourd qu'avant. Fait que oui, les tribunaux, en tout cas ceux devant lesquels je plaide souvent, oui, les tribunaux ont compris un bout de temps, mais il y en a certains qui ont compris pendant un certain temps, mais qui ont arrêté de comprendre à un moment donné, puis qui ont recommencé à faire du présentiel. Alors, imagine-toi ce que ça peut représenter quand tu as des clients à Rimouski, puis c'est grand le Québec, là. Pour un avocat, là, dans l'Est du Québec, là, c'est énormément de déplacements. Puis, à un moment donné, on finit qu'en vieillissant aussi, on est moins alerte un peu pour. Tu sais, si je pars pour Rimouski, moi, puis ma cause est à 9 h, je pars à 5 h du matin, je vais arriver un peu fripé, tu sais.
Exact. Mais
Alors, moi, j'ai couché là la veille, ce qui implique des coûts puis du temps, parce que tu passes tes journées puis tes soirées dans une chambre d'hôtel. Alors, ça fait en sorte que les accidentés ont moins de possibilités d'être représentés par l'avocat de leur choix.
Mais moi, là, je suis Simon Jolin Barrette, là. J'entends Maître Bellemare parler de ça. Je me dis, mon Dieu, c'est une bonne idée. Est-ce que lui peut, à lui seul, changer les choses de ce côté-là? Donc, obliger certaines causes à justement se faire à distance pour essayer d'accélérer le processus, puis peut-être minimiser l'accès à la justice parce que ça coûte cher, là. Les avocats coûtent cher. Le temps aussi de votre côté, tu sais, si vous pouvez représenter trois, quatre personnes dans la même journée plutôt que un en 2 jours parce que vous devez monter en Gaspésie. Je veux dire, c'est quand même 6-7 heures de route, là, parfois, vers la Gaspésie. Donc là, si j'étais Simon Jolin Barrette, pourquoi je n'utiliserais pas cette solution-là? Comment je
Oui,
pourrais faire?
il pourrait le faire, par exemple, dans une loi qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des tribunaux administratifs et judiciaires, qui dirait, par exemple, je sais pas moi, en principe, à moins que ce soit requis de façon très exceptionnelle, en principe, les audiences doivent se tenir en virtuel, les audiences de justice. Les témoins sont entendus en virtuel. Il pourrait mettre le pied à terre et dire, on va favoriser le virtuel dans la justice au Québec, sauf dans des cas de crimes graves ou dans des cas où le principal intéressé le demande, les parties demandent que ce soit du présentiel. Il peut y avoir des cas, des fois, où tu veux du présentiel pour toutes sortes de raisons, parce que tu veux que ton client soit entendu en personne, parce qu'il est plus. Il est plus expressif en personne, ou lui, il croit à la justice traditionnelle, il veut voir le juge, puis il veut le regarder dans les yeux, puis ça donne que lui veut ça. Ou bien, des fois, il y a des gens qui n'ont pas ils n'ont pas d'Internet aussi. Il y a des régions où il n'y en a pas. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec les ordinateurs. Il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes de situations. Mais oui, le ministre de la Justice pourrait dire, ça sera virtuel, à moins que, en citant 7-8 situations particulières, que chacun des juges, dans chaque cour, dans chaque région, on va pouvoir appliquer, il pourrait envoyer un signal. Parce que là, c'est chaque tribunal qui décide. Puis comme je te dis, au tribunal administratif du Québec, c'est virtuel, sur demande. Le principe, c'est virtuel. Pour le tribunal administratif du Québec, du travail plutôt, c'est présentiel. Puis pour les accidentés, ça crée beaucoup de difficultés. Puis ça augmente les coûts. Ça augmente le nombre de remises parce qu'on n'est pas toujours disponible. Et puis, ça fait en sorte que des avocats comme moi, ça fait 45 ans, je défends les accidentés du travail, mais je refuse souvent des gens que je ne peux pas représenter en région à cause des très longs déplacements que ça peut exiger. Écoute, moi, je suis à Québec, j'ai un client à Rouyn-Noranda, là, sais-tu que c'est traverser, se rendre à Montréal en auto, après ça, traverser le parc de la Vérendrye, c'est presque impossible, c'est une douzaine d'heures. Tu sais, en avion, c'est pas bien ben mieux parce qu'il y a des transferts à faire. Dans les aéroports, puis ça devient compliqué. Si je pouvais le faire en virtuel, je le ferais agréablement avec des honoraires très, très raisonnables, mais ce n'est pas toujours possible. Je te parle de mon secteur de pratique à moi qui défend les accidentés, l'autre qui défend d'alcool au volant, puis l'autre qui défend des locataires. Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais je sais que il n'y a pas de ligne directrice justice au Québec qui pourrait peut-être venir là du ministre de la Justice qui serait plus favorable au virtuel.
Ça sera probablement la question la plus conne de la soirée, mais pourquoi il ne le fait pas?
Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Pourtant, Jolin Barrette, c'est un ministre qui est très interventionniste. Il s'occupe d'à peu près n'importe quoi. T'sais. On l'a vu récemment, les appareils domestiques qui sont à vécu variable, les ordinateurs qui brisent. Il s'occupe du tribunal spécialisé en crimes sexuels. L'IVAC, il est pas mal partout. Donc, c'est un ministre qui est très interventionniste. Il pourrait le faire. Peut-être qu'éventuellement, il va le faire ou il ferait peut-être une consultation publique, une commission parlementaire, consultation générale, où tous les intervenants des milieux de la justice viendraient dire, bien, nous autres, on pense qu'on devrait faire ça pour accélérer les délais. Parce que là, dans les congrès du barreau qui ont lieu généralement au mois de septembre, où là, toutes les cours, puis les juges en chef, les avocats sont présents, c'est toujours les mêmes marottes, là. Ça coûte trop cher la justice, il faut s'attaquer à ça. C'est trop long, la justice, il faut s'attaquer à ça, parce que souvent, la longueur des procédures va avoir un impact sur les coûts. Mais le lendemain matin, tout le monde rentre chez eux dans sa petite cour, puis tout le monde fait ce qu'il veut, puis ça change pas vraiment beaucoup. Mais il y a de plus en plus de virtuels, mais il n'y en a pas assez à mon goût encore.
Maître Marc Bellemare est avec nous ce soir comme à chaque lundi. On va faire une courte pause. Maître Bellemare sera de retour, bien entendu, tout de suite après la pause. Restez là.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin. Boulevard 102A.
Comment ça fonctionne? C'est-tu tout le monde contre les Hells à cette heure? Ou...
Ce qui se produit en ce moment, les Hells avaient l'autorité sur toute la distribution puis allaient chercher la cote. Il n'y a plus personne qui veut la payer. Alors les gens se développent un secteur. Tu veux être le roi d'un secteur? Bien, protège-le. Et ils montent, ils grandissent, puis c'est ce principe-là qui s'installe en ce moment. Attendons pas que le crime organisé se régularise par lui-même. Il ne se régularisera pas. Ils vont même tantôt possiblement s'en prendre à l'État. C'est ce qu'on a pensé à une époque. C'est pour ça qu'ils ont donné beaucoup de pouvoir quand ils se sont rendus compte que Mom Boucher, qui n'était pas le président des Hells Angels au Québec, pas une minute, c'était juste une bonne tête brûlée. On tue du monde. Oh, Colin, on prend le territoire. Attends un peu. Les journalistes parlent mal de nous autres. Michel Auger, on essaie de péter.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, les juges, il y avait des noms sur les listes. Là, ça a changé. Je ne pense pas qu'aucun de ces jeunes-là veut s'en prendre présentement aux policiers, aux journalistes, à court terme. Mais il faut arrêter de penser qu'une fois qu'ils vont avoir grimpé, ils veulent continuer après ça.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile. 102.1. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour le spectacle de Creed le 25 novembre prochain au Centre Bell.
Boulevard 102.1, votre pocheur d'étiquettes.
Les représentants hypothécaires de Desjardins sont disponibles où et quand vous le voulez. Ils se déplacent à votre convenance 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/représentants.
Les 5 et 6 octobre prochains, c'est le Marathon Bénéva de Québec. Vous habitez près du parcours ou vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.québec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercalo.fm.
Obtenez une boîte découverte de 3 repas d'une valeur de 135 $ pour $67.50 chez Farine et Basilic.
À juger, prochaine offre.
Procurez-vous une carte cadeau de $50 pour $25 chez Pizzédélic Cartier.
À juger, monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Des bas bruns, une cravate? Pas vraiment. Chez Mallette, on porte surtout plusieurs chapeaux. Fiscalité, notariat, juridique, actuariat, intelligence d'affaires, immigration. Découvrez tous nos services au mallette.ca. Mallette, des comptables et bien plus.
Hey, c'est ta nouvelle auto?
Ah ouais? On est finalement passé à l'hybride.
Ah ouais, mais paraît que c'est compliqué à assurer.
Non, avec l'assurance Auto CA Québec, on peut protéger une voiture électrique, hybride ou à essence.
Mais faut être membre.
Non, mais en étant membre, t'économises sur ta prime puis tu fais encore plus d'économies en combinant ton assurance auto et habitation.
En combinant vos assurances auto et habitation CA Québec, économisez jusqu'à 25% et obtenez une remise de $50 CA. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caaquebec.com/assurance-auto pour une soumission.
Cet automne, dites bye-bye tatou avec les cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage disponible chez Viva. Fonctionne sur tous les types d'encre et couleurs de peau. Pour un temps limité, profitez d'un rabais de 25% sur vos séances. cliniqueviva.com.
Vous souhaitez rénover votre résidence avec l'aide d'une designer d'intérieur? Style et Forme Design vous accompagnera pour créer la cuisine, la salle de bain ou l'espace de vie de vos rêves. De la conception à la réalisation de vos projets, faites confiance à Style et Forme Design, un service personnalisé et humain.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Marc Bellemare est encore une fois avec nous ce soir, en ce lundi, les lundis préférés de certains auditeurs. Maître Bellemare, quand vous n'étiez pas là la semaine dernière, le lendemain, c'est tout le temps une avalanche de plantes, hein, de plaintes. Hein. Il est où, Bellemare? Pourquoi il n'était pas avec toi? T'as oublié de mettre le podcast? Bellemare va-tu être de retour? Y es-tu parti? Y as-tu pris sa retraite?
Ah, j'ai mon fan club.
Oui,
mais c'est toi qui dois gérer ça, Yann. Là.
Ah, j'ai pas le choix.
Prendre des notes, envoyer des cartes de membre, cotisations annuelles.
Ah, vous le savez pas. Coudonc,
ouais. Vous n'êtes pas organisé?
Ben oui, on est organisé. J'ai commencé à vendre des T-shirts à votre effigie, là, avec le visage de Maître Marc Bellemare. C'est payant. C'est une entreprise qui est rentable présentement, là, vendre des T-shirts avec votre visage.
OK, c'est ça. Toi, tu fais du cash sans me le dire. Là. Ben je pense que j'ai posé la question.
Ben oui, ben oui. Maître Bellemare, je voulais parler avec vous des fameux avis Google. Les restaurateurs sont victimes d'avis Google. Des gens qui n'ont jamais été dans leur restaurant, qui s'organisent avec d'autres personnes, avec de mauvaises intentions, pour aller donner de faux commentaires Google en donnant une seule étoile sur cinq, ce qui fait en sorte que ça fait descendre la cote du restaurant. C'est vrai pour les restaurants, c'est vrai pour toutes les entreprises, c'est vrai pour, je sais pas, moi je regardais dans le Journal de Montréal il y a de ça quelques jours, une entrepreneure qui, elle, a un salon d'acupuncture, une clinique d'acupuncture, et elle a été victime de faux avis Google sur sa clinique, et ça a été une avalanche de faux avis. Ça nuit à son travail, ça nuit à son entreprise. Là, dans les dernières années, il y a des restaurateurs qui ont décidé de se prendre en main, comme la clinique d'acupuncture ici, pour dire « Non, c'est pas vrai que moi, je vais me laisser faire. Je vais poursuivre les gens qui donnent de faux avis Google. » Et dans ce cas-ci, elle a réussi à récolter 26 000 $ de la part de ses tortionnaires.
Oui, c'est une acupunctrice. Effectivement, c'est rapporté par le Journal de Montréal il y a quelques jours. Acupunctrice, une madame qui a l'air, en tout cas, la photo qu'on voit, elle a l'air tout à fait sereine. Acupunctrice 2019. Puis à un moment donné, un bon matin, elle a subi ce que le juge appelle un flot de commentaires négatifs sur le web. En 10 jours, elle a reçu 7 avis d'une étoile sur 5 sur le profil Google. Certains internautes étaient des gens de l'Ontario qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais traité. Donc, elle a senti une très grande injustice. Et elle, qui est une acupunctrice diplômée, compétente depuis 2013, mais elle l'a mal pris. Disons, sa clinique était passée d'une cote parfaite de 5 étoiles à 4,2 en moins d'un mois. Ben, 4,2, c'est quand même pas pire. Il reste qu'elle a subi un dommage de ça parce que c'est sûr que si tu vas sur Internet, puis tu vas sur Google, tu regardes les étoiles. Je ne sais pas si toi tu le fais, mais je sais que dans les restaurants, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je ne le fais pas, mais je sais que c'est de plus en plus lu. Les gens vont chercher les commentaires. Chambre d'hôtel, restauration, transport, même les services juridiques. Il y a des possibilités de mettre des avis Google. Moi, je le sais parce que j'ai sur Bellemare Avocat, il y en a à peu près 275 des avis Google, là. Mais c'est certain que les avis ne sont pas toujours filtrés. Puis il y a des choses qui sont dites, des fois, qui sont vraiment vexatoires et qui sont totalement erronées. Alors, elle s'est retrouvée avec ça, avec une cote, parce que ça peut affecter la clientèle. C'est sûr que si tu vas sur un site, puis tu vas voir les avis Google, puis tu vois que les 8 derniers avis, c'est 1 ou 2 sur 5, mais tu vas être porté à avoir des doutes, peut-être tu vas passer ailleurs, tu vas aller chercher quelqu'un qui a un 4,6 ou un 4,7. Tout le monde sait fort bien que n'importe qui peut émettre des avis Google, mais c'est sûr que des avis négatifs à 1, ça peut avoir un effet sur la clientèle. Cette femme-là a vécu un dommage, elle a perdu des clients à cause de ça. Et le juge a dit que c'est une attaque ciblée. Donc, on va verser à madame une indemnité. C'est la juge Garin qui a décidé ça pour du Québec. Alors, donc, on lui a versé 26 000 $ pour les dommages qu'elle a subis. C'est sûr que c'est pas tout de prouver que c'est des attaques ciblées. Il faut que tu prouves aussi que tu as subi un dommage. Donc, tu y vas généralement par le chiffre d'affaires. Tu dis, ben depuis 2 ans, j'avais tel chiffre d'affaires à tel mois de l'année. Après les avis Google, ça a chuté. Puis là, j'ai eu tel chiffre d'affaires, donc il y a une perte. Et il peut y avoir aussi des dommages punitifs qui sont accordés par le juge, selon l'article 49 de la Charte, si c'est une attaque volontaire et délibérée à un droit fondamental qui est ici attaqué, qui est le droit à l'honneur, la réputation, la dignité. À ce moment-là, le juge peut ajouter un montant d'argent pour punir. On appelle ça des dommages punitifs. Bon, en gros, ça a été 26 000 $ pour cette femme-là. Je ne sais pas si ça va être payé parce que ça a l'air que les pas fins sont des Ontariens. Donc là, bonne chance pour aller chercher le chèque. Parce que souvent, quand c'est dans une autre province, il faut faire exemplifier le jugement puis le faire approuver par un shérif là-bas, puis c'est toute une procédure. Mais il reste quand même que c'est une belle jurisprudence. Puis je pense que c'est un jugement qui pourrait être suivi par d'autres commerçants. Encore faut-il que tu prouves que c'est ciblé. Les arnaqueurs ou les gens qui font de la diffamation sur Google, des étoiles, puis qui envoient une étoile le 1er janvier, puis une autre étoile le 14 février, tu ne peux pas toujours faire le lien entre tes individus, mais dans ce cas-ci, ça a l'air que c'est tombé d'un coup sec en 2019, puis le juge y a vu là une manigance.
Puis pour ce qui est de l'entreprise là, qui gère Google, Maître Bellemare, semblerait que pour des commerçants qui essaient de faire enlever justement ces faux avis-là, de communiquer avec Google, c'est impossible et ces gens-là n'ont pas de nouvelles. Là. Donc l'entreprise, même en sachant que les commentaires qui ont été mis en place, c'est des commentaires qui sont faux, l'entreprise laisse ça en place. Il y aurait des possibilités de poursuivre cette entreprise-là parce qu'elle...
Oui.
C'est comme si...
Poursuivre Google.
Oui.
Tout à fait, de laisser ces images-là, ces commentaires-là publics, sachant que les gens y vont, parce qu'ils sont capables, Google, de savoir combien il y a eu de clics, combien il y a de personnes qui ont accédé aux étoiles de l'entreprise. Mais pire encore, Yannick, on ne peut pas se libérer de Google dans ces cas-là, parce que l'entreprise apparaît sur Google. Si tu veux, toi, dire, ben moi, je ne veux plus avoir les étoiles, je ne veux plus avoir les avis. Mais là, tu perds un accès public pour ton entreprise à Google, qui est quand même une fenêtre importante. Mais pour avoir cette fenêtre-là, il faut que tu acceptes qu'il y ait des commentaires. Si tu ouvres demain matin un restaurant, là, tu vas te retrouver sur Google avec ton restaurant à un moment donné, puis tu n'as pas nécessairement, le choix d'y aller. C'est quasiment un passage obligé, mais en même temps, tu ne peux pas dire « Je vais être sur Google, mais je ne veux pas avoir d'étoiles. » Et c'est eux qui décident.
Moi, je comprends. Je comprends. Mais
Les réseaux sociaux, c'est devenu des dictatures. Hein. C'est pire que les gouvernements.
C'est parce que les faux commentaires, je veux dire, il n'y a pas juste au Québec qu'il peut y en avoir. Ça doit être à la grandeur de la planète, là où Google fait affaire. J'ose croire qu'à un moment donné, ils se sont dit « Ouais, il faudrait peut-être qu'on essaie de régler ça. » Quand il y a des commerçants qui nous écrivent avec, je ne sais pas moi, un jugement de cour qui dit tel commentaire, c'est un commentaire qui est faux, Google devrait les enlever automatiquement, mais la conversation semble extrêmement difficile. Donc, nécessairement, pourrait y avoir un recours collectif dans les prochaines années envers Google pour parler commerçants qui, eux autres, se sentent lésés là-dedans. Là.
Oui, exactement. Mais il faut croire que c'est... Oui, il y a des situations où il y a des gens qui peuvent utiliser les étoiles à mauvais escient, mais il faut croire que, de façon générale, les commerçants ou les entreprises y trouvent leur compte, d'une certaine manière. Ça, c'est un cas où madame a eu une attaque ciblée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Probablement qu'il y en a d'autres aussi qui sont victimes d'attaques ciblées. Mais il faut croire qu'un dans l'autre, il y a tellement peu de cas où il y a des poursuites qui sont intentées. Un dans l'autre, la plupart des commerçants sont contents d'avoir des avis Google. Il y en a même qui font de la publicité, là. Il y en a même dans leur pub à la radio qui vont dire, ben nous, on a 5 sur 5 des avis Google, puis on a 4.9 sur Google. Tu as déjà entendu ça? Il y a des commerçants qui s'en font une gloire. Alors, puis il y en a beaucoup, j'imagine, aussi, qui vont mettre des commentaires favorables. sans nécessairement que ça soit... Il y a peut-être des attaques ciblées favorables aussi, en d'autres termes. Ce que je veux dire, c'est que mettre 40 de tes chums sur les mêmes étoiles, il n'y a rien qui empêche que ça soit fait. Alors, voilà. Mais que Google puisse être beaucoup plus sévère dans l'appréciation des commentaires et d'éliminer des commentaires racistes, violents, diffamatoires, bien sûr que ça devrait se faire. Ça devrait être automatique, mais il est probablement qu'ils n'ont pas de ressources là-dedans et qu'ils ne mettent pas personne pour gérer ça et qu'ils laissent aller le système.
À un moment donné, ça va leur revenir dans le visage.
Oui, c'est ça, exact.
Maître Bellemare, dans la presse, on parlait d'une histoire d'agression sexuelle. Puis quand j'ai lu l'article, je vais vous avouer que j'ai été flabbergasté par les problèmes que cette personne-là a causé à deux individus. On parle d'une femme qui a fait une fausse dénonciation d'agression sexuelle qui serait survenue à Cancun. Le juge n'a pas cru son histoire et là, ben, elle va devoir donner $500,000 à ses victimes pour fausse dénonciation. C'est fou à quel point il y a des gens qui peuvent être méchants à Maître Bellemare, là, parce que ça scrape une vie, ce type d'accusation-là.
Dans la foulée du MeToo, qui est un mouvement qui a quand même eu du bon dans une certaine mesure, mais qui a permis une espèce de lynchage dans la plus peu tradition western. Alors, on en a un exemple ici, Mme Nadia Fiach, qui a été condamnée à payer $500,000 pour des fausses dénonciations. Elle a inventé une histoire d'agression sexuelle à Cancun, parce que, d'après ce que le juge a conclu, le juge Maillère de Montréal, l'accusation de viol était fausse et cette femme-là était frustrée parce que son compagnon avait flirté avec une Américaine dans un bar là-bas et elle n'a pas aimé ça. Alors, elle a dit... Elle a porté plainte au Mexique. Elle s'est adressée à plusieurs corps de police au Québec. Et après un premier rejet de ses prétentions, un tribunal mexicain a finalement lancé un mandat d'arrestation contre les deux hommes. Conséquence, James Zara a été arrêté, s'est retrouvé coincé pendant plus de 6 mois au Liban. Écoute bien, c'est pas niaiseux, là. Où il se trouvait pour des funérailles. Yvan Arsenault, victime collatérale, a vu son passeport canadien invalidé. Et ça a l'air qu'il l'est encore aujourd'hui. Puis elle, bien, pas plus brillante. En plus, elle a envoyé des courriels de style « donne-moi de l'argent ». Alors, évidemment, ça a facilité un petit peu la poursuite, mais le juge a vu qu'il y avait des textos troublants et il y avait la victime a dit « donne-moi de l'argent » au style direct là, dans le jugement. « Donne-moi de l'argent et je dirai à la police que c'est pas vrai. Ta vie est fichue simplement parce que tu voulais cette garce à Cancun. J'espère que ça valait le coup. » Écoute bien, là. C'est terrible. Alors, il n'y aura jamais de réparation adéquate pour une privation de liberté de cet ordre-là. Mais ça, c'est une bonne idée, c'est un jugement intéressant, en ce sens que ça va amener les supposées plaintes, parce que c'est... Tu peux faire une plainte à la police contre quelqu'un en disant « j'ai été agressé sexuellement », sachant que le consentement est au cœur de toute forme de relation sexuelle. S'il n'y a pas eu de consentement explicite, clair, à ce moment-là, ça devient une relation non désirée, puis ça peut être un cas d'agression sexuelle. Alors, c'est bon qu'il y ait de temps en temps des juges qui rappellent aux victimes que ce sont les vraies victimes qui ont droit à une réparation devant un système de justice et non pas les fausses. Alors, on ne peut pas utiliser le système judiciaire pour accuser faussement des gens d'agression sexuelle pour se venger et partir l'ensemble du processus contre cette personne-là, parce que tu pensais aux ressources judiciaires et policières qui ont été mobilisés là-dessus. C'est tes impôts et les miens. Là. Ouais. Puis même au Mexique, il y a des gens qui payent pour les institutions, police, justice, etc. Alors, d'utiliser les fonds publics et les institutions publiques à mauvais escient sur la base d'une fausse plainte d'agression sexuelle, c'est à peu près la pire la pire calamité qu'on puisse vivre.
Mais je pense juste aux dommages psychologiques que les gars ont dû subir, de savoir qu'ils étaient recherchés par Interpol, qu'ils n'avaient rien à se reprocher, mais que là, ils ne pouvaient plus voyager, parce que s'ils voyageaient comme ils étaient recherchés par Interpol, aurait pu être arrêté. Le fait que le juge dise « Non, non, ça, c'est une histoire inventée », comment se fait-il que Mme Fiatché ne se retrouve pas en cours actuellement pour ce geste-là, qui, à mes yeux, est criminel, là, ce genre de dénonciation-là trompeuse, qui peut faire en sorte que deux gars peuvent se voir incarcérés pour possible agression sexuelle, puis tout ça est inventé. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait des accusations criminelles à son égard. Comment se fait-il qu'elle, elle doit juste payer comme un demi-million de dollars, puis après ça, elle est claire?
Oui, c'est pas dit qu'elle ne sera pas, parce que le crime, en vertu du code criminel, on appelle ça un méfait public. Méfait public, c'est d'utiliser des biens ou des ressources publiques à mauvais escient. Par exemple, tu vas briser un arrêt-stop au coin de la rue. Tu vas briser un garde-fou sur le bord du chemin. Tu vas briser un trottoir ou tu vas abîmer un objet qui appartient à l'État ou à une municipalité. De la même manière que tu vas utiliser les services policiers pour une vengeance et de faire une plainte ou crier au loup alors qu'il ne s'est rien passé. C'est aussi considéré comme un méfait public. Alors, c'est un acte criminel. Et bien sûr, à partir de cette dépêche-là qui est dans la presse d'aujourd'hui et qui nous parle d'une décision qui a été rendue il y a quelque temps, mais qui est quand même assez récente, il est bien possible que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, décide de porter des accusations de méfait public contre cette personne-là, parce que le jugement de la Cour supérieure est assez explicite. Et on dit aussi dans la dépêche que cette cause n'est pas sans rappeler la condamnation d'une Montréalaise, Tania Zajdel, qui avait été condamnée à verser 200 000 $ à un touriste américain qu'elle avait faussement accusé de viol. Elle avait inondé les réseaux sociaux de ses accusations, les avait transmises à l'employeur de l'homme en question, avait même auto-édité un livre sur ses allégations, mis en vente sur Amazon. Hey!
On parle d'une
mais
folle.
Non, je ne veux pas dire folle. Que toutes les femmes qui se plaignent sont des menteuses.
Mais non,
là,
mais non,
loin
mais non,
de
mais
moi
non.
De l'idée d'y penser. J'en connais des centaines qui ont raison de le faire. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est que si vous utilisez le système judiciaire sur de fausses prétentions, vous risquez d'avoir des accusations criminelles à votre tour et de payer une salée facture.
Ah, puis la médiatisation des dossiers aussi. J'avais déjà parlé avec Martin Vrel de ce dossier, d'un des dossiers, entre autres, qui touchait un individu qui avait été accusé. De mémoire, c'était de pédophilie, donc Martin Vrel faisait son travail, puis lui, ce qu'il aimait, c'est de montrer le visage des supposés pédophiles. Et là, ben, il avait passé à la télé à 18h à TVA en montrant la face. Mais quelques semaines plus tard, le gars, fin de procès, déclaré non coupable. Puis là, ben, il passe pas à la télé pour dire qu'il est non coupable. Mais quand il a passé à la télé la première fois, possible pédophile. Puis quand ça passait dans le Journal de Québec, si on croyait qu'il était pédophile, on le mettait directement sur le front page. Puis s'il était déclaré non coupable, on le mettait à la page 75, où les dommages sont pas pareils là, à partir du moment où tu es accusé de versus tu es non coupable de. Non coupable, ça passait jamais dans la première page du journal. C'est cruel, ce type d'accusation-là, là, surtout quand c'est mensonger, là.
Oui. Ça fait en sorte que ça refroidit un peu les relations hommes-femmes. Parce que, tu sais, le cruising est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Tu sais jamais à qui tu as affaire.
Ouais.
Puis tu peux te retrouver après une soirée agréable, tout à fait consensuelle. Tu peux te retrouver le lendemain matin avec une police qui cogne à la porte, qui vient t'interroger sur ce qui aurait été rapporté par la fausse victime. Ça refroidit un petit peu les relations. C'est sûr qu'autrefois, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, on dit que tout le monde a des droits, les victimes aussi, ce qui est bien. Mais en même temps, il y a quelques brebis égarées qui vont se servir de ça pour, sachant que c'est à la mode, hein, parce qu'il y a beaucoup de plaintes, qui vont se servir de ça pour se venger de quelqu'un.
Dossier de SAAC, IVAC, CNESST, c'est belmontrevocat.ca.
Absolument. Alors, jour et nuit, vous pouvez nous écrire et ça va nous faire plaisir de vous rappeler le lendemain matin.
Passez une belle soirée, Maître Belmont.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne semaine.
Bye-bye.
Bye.
Recording in progress.
Nous, on s'arrête. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. On aura le plaisir de se reparler demain 10h avec Audrey pour l'Open Mic. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Retrouvez le sourire grâce à l'équipe du Dr Steve Bernier, expert en implants dentaires, maintenant à Lévis, Québec et Saint-Georges. Dr Steve Bernier, la référence pour vos implants dentaires. Profitez d'un grand rabais sur les montures de grande marque chez Gresh et Scaff. Jusqu'au 10 novembre, obtenez un rabais de 150 $ sur la monture à l'achat d'une paire complète. Jacinthe Laurando opticienne, apportez votre prescription ou réservez votre examen sur gresh-scaff.com.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits, mais heureusement pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Jusqu'au 20 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prise de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Dites enfin stop à la perte de cheveux avec les cliniques Viva. Découvrez la technologie PRP, la plus performante sur le marché pour la perte de cheveux. Il stimule la repousse et prévient la chute. Pour un temps limité, recevez 400 $ de rabais sur vos séances. Le traitement PRP est maintenant offert à Saint-Romuald, cliniqueviva.com.
Boulevard.
Boulevard.
102.1.
En 2024, Marco aurait pu faire un voyage de 2 semaines en VTT, comme il en a toujours rêvé. En 2023, il aurait pu partir à la pêche au saumon en VTT. En 2022, il aurait pu embarquer son VTT dans son camion et partir à la découverte de nouveaux sentiers. Mais en 2021, Marco est mort en conduisant son VTT.
En VTT, tu peux reculer, mais tu peux pas revenir en arrière. Vitesse, alcool, drogue, jamais en VTT. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Laval Volkswagen, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement de 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Le moteur du petit VUS Volkswagen Taos turbo-compressé de 1,5 litres favorise l'économie d'essence. Avec le Taos, profitez de la traction intégrale et d'une conduite allemande qui allie plaisir, confort et sécurité. Venez découvrir notre nouvelle concession au 2125 rue Frank Carrel. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval. Volkswagen. LavalVW.com.
Ton feed X pis ton TikTok, c'est bien cool.
Je voulais vous dire ce qui se passait parce que vous êtes tout l'important pour moi. Vous faites toujours partie de ma vie.
Mais il y a rien qui bat l'information locale. Le prix du gaz à Québec, les pistes cyclables du maire Marchand pis la victoire du Rouge et Or. Ça se passe pas à Shanghai pis à Silicon Valley. Pour tout ce qui se passe dans ta ville, c'est Boulevard 102.1.
Oui.
Boulevard 102.1.
C'est l'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça, c'est du rock.
Excellent lundi soir. J'espère que votre semaine s'est entamée du bon pied. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. De mon côté, ça a été occupant à tabarouette le vendredi soir, la lutte avec Marceau. Bravo encore là, d'ailleurs à tous ceux impliqués de près et de loin, particulièrement Yann Marceau pour les plus de 17 000 $ remis à la bouchée généreuse. Samedi, hommage à Linkin Park. Allez voir ça, le band Linkin Road. C'était une maudite belle soirée. Le plus près que j'ai vu Linkin Park en show de ma vie, parce que j'ai jamais vu Linkin Park. Fait qu'un band hommage, c'est le plus proche que j'ai eu à date. Espérons un passage sur les plaines prochainement. On dirait que j'en parle énormément parce que j'y crois beaucoup. D'ailleurs, on va entendre New Divide dans les prochaines minutes. Et hier, match du Rouge et Or de l'Université Laval. C'était un plaisir de vous croiser, de vous offrir des pogos. Billie Eilish qui était de passage du côté du Centre Vidéotron. On en reparle un petit peu plus tard. Pour l'instant, Linkin Park sera là avec New Divide. Soul Asylum aussi, Pierce Deville, Sugar Ray, Nirvana avec All Apologies. Mais tout de suite, Papa Roach, la magnifique Leave a Light On à Boulevard.
Dry bones rattling, a lonely soul slipped and fell into a deep black hole. I can tell you're lost, I'm here for you. Wildfires burning you down to stone, blind eyes turning from a world so cold. A million miles apart,